9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Béatrice Guillemont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en droit, membre associé au laboratoire Le Cercle à l'Université de Bordeaux et chercheuse à l'Observatoire de l'éthique publique. Aurore Berger, la présidente des députés macronistes, vient de partir en congé maternité. Or, rien n'est prévu par le règlement de l'Assemblée nationale pour les élus qui vont accoucher. Leur siège reste vide jusqu'à leur retour. C'est comme si elles n'étaient plus députées.
Oui, effectivement, le fauteuil reste vacant. L'Assemblée nationale comme le Sénat, c'est parmi les plus vieilles institutions de la République. Et effectivement, la Ve République a fait le choix d'une République stable, d'une constitution dite rigide, pour que les choses évoluent peu. Mais en même temps, il faut que ça évolue et c'est des questions qui se posent désormais.
C'est quand même en octobre 1945 que les 33 premières femmes élues de la République sont entrées à l'Assemblée. On est 77 ans plus tard, elles sont 215, soit 37,3% de la représentation nationale, et on n'a jamais rien prévu pour le cas où elles attendraient un enfant. C'était même un argument pour que les partis politiques ne présentent pas de femmes, mais depuis qu'il y a la parité, c'est aberrant.
C'est aberrant. On a permis aux femmes d'être candidate à des élections. Maintenant, il faut leur permettre d'exercer au même titre que les hommes leur mandat électif public. Le mandat électif public, initialement, il est non rémunéré. Les élus, pour une partie seulement, bénéficient d'indemnités. Mais effectivement, tout n'est pas prévu et le règlement de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de situation où des députés, en l'occurrence femmes, seraient contraintes de se retirer de la vie politique momentanément pour donner naissance à un ou plusieurs enfants.
Mais en plus, Aurore Berger, elle n'est pas partie pour 3 mois, elle est partie pour 3 ou 4 semaines, c'est ce qu'elle a annoncé. Revenir plus tôt ne serait pas un bon signal envoyé aux femmes, a-t-elle précisé. Pendant ce laps de temps, le groupe Renaissance comptera donc une voix de moins, car elle ne peut pas se faire remplacer, ni voter à distance, et pour déléguer son vote, il faut être en arrêt maladie. Or, avoir un enfant, ça n'est pas une maladie.
Ça n'est pas une maladie, c'est des situations qui avaient déjà été connues. Effectivement, il y a déjà des femmes dans les précédentes législatures. On a le souvenir de Rachida Dati, qui était partie en congé maternité seulement 5 jours après.
Elle était ministre, elle.
Oui, elle était ministre, membre du gouvernement, effectivement. Et donc, cette situation-là, elle existe aussi dans d'autres parlements. C'est absolument pas méconnu. Et ça reste une anomalie, enfin, c'est devenu une anomalie. Avant, c'était un sujet dont on ne devait pas parler. Oui, effectivement, le rapprochement peut être fait avec le harcèlement que certains collaborateurs parlementaires auraient subi. C'était un non-sujet. Et puis maintenant, depuis 2022, c'est devenu un sujet. Et effectivement, maintenant, la place des femmes, y compris des femmes donnant naissance à des enfants, se pose au sein des assemblées.
Mais c'est bizarre que ça ne choque pas le fait que, tout à coup, il manque un député ou une députée, en l'occurrence, elle ne peut pas voter. Ça ne choque personne. C'est parce que l'Assemblée est collégiale, c'est ça ?
C'est ça. En fait, ce qu'on oublie, c'est que notre fonctionnement en France, c'est dans une démocratie dite représentative et on a fait le choix de la collégialité. Donc, partout, sauf à la présidence de la République, il y a un système de collégialité. Le Conseil des ministres, c'est la collégialité. L'Assemblée nationale, le Sénat, donc l'entièreté du Parlement, le Conseil économique, social et environnemental, et puis tous les conseils locaux, donc les conseils municipaux, départementaux et régionaux. Donc, de fait, s'il manque un élu de ce conseil-là ou de cette assemblée-là, l'assemblée peut continuer. Donc l'absence techniquement d'un député ou d'une députée en l'occurrence ne pose pas de problème au fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale. En revanche, ça pose un problème notamment dans le cadre de l'économie des groupes politiques qui sont représentés dans les assemblées.
Surtout maintenant où c'est à une voix près.
Effectivement.
Alors il y a Mathilde Digné, députée de la France Insoumise. Elle a proposé de faire une loi pour que les élus enceintes puissent se faire remplacer par leurs suppléants. Ce qui n'est pas possible en l'état actuel, puisque le ou la suppléante ne remplace le député ou la députée que si elle est nommée ministre. Si elle part définitivement, pas temporairement.
Alors pas nommée ministre, mais membre du gouvernement. Ça c'est l'article 25 de la Constitution. Donc, de mémoire, la proposition de loi, elle vise à modifier la Constitution. À mon sens, on n'est pas obligé de procéder à une modification de la Constitution.
Oui, parce que ce serait compliqué.
Parce que c'est contraignant, effectivement. Et la Constitution, elle est dite rigide, donc ce n'est pas facile à changer. En revanche, modifier simplement le règlement de l'Assemblée nationale, ça serait possible. Je crois que c'est l'article 7 qui prévoit la vacance des députés et prévoit un congé donc post-natalité. Post-natal et prénatal, donc prénatal pour avant la naissance et post-natal, et y compris aussi pour les députés hommes, parce qu'il y a des députés hommes à l'Assemblée nationale qui deviennent aussi pères.
Et qui veulent leur congé de paternité.
Et qui aimeraient bien avoir leur congé de paternité. Et de la même manière, si on a envie d'être encore un peu plus progressiste ou pour certains disruptifs, on pourrait aussi penser à la possibilité pour les femmes allaitantes, les députées allaitantes, de pouvoir allaiter à l'Assemblée nationale. Alors déjà que porter un maillot de foot dans une Assemblée nationale, ça peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Donc qu'est-ce que serait une femme si elle se mettait à allaiter dans l'hémicycle ou en commission? Mais pourtant, c'est un cas de figure.
C'est arrivé à l'étranger. On a vu des photos d'ailleurs de jeunes femmes députées.
Exactement. Donc si les institutions républicaines sont ce qu'elles sont et que c'est important que ces institutions demeurent des institutions, donc il faut aussi que ces institutions elles s'adaptent en réalité à l'évolution de la société. Et ça paraît être, si ce n'est un besoin, complètement une nécessité. De la même manière, on pourrait aussi prévoir une crèche. Il y a bien deux bistrots à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors si on met un bistrot, un restaurant, pourquoi pas une crèche à destination des jeunes enfants?
Oui, parce que c'est pas tout d'accoucher. Après, comment on fait quand on revient, hein. On fait une pause, Béatrice Guillemot. On se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Béatrice Guillemot. Le problème des femmes députées enceintes qui vont accoucher et qui n'ont absolument pas de congé maternité. Rien n'est prévu dans le règlement. On l'a dit, Mathilde Igné propose une loi pour que le suppléant puisse suppléer, mais Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a dit que ce n'était pas forcément une solution, puisque le ou la suppléante a un emploi qu'il n'est pas forcément possible de quitter pour quelques semaines ou pour 3 mois.
Oui, effectivement. Alors moi, je ne tournerais pas ça sous l'angle le problème des femmes enceintes députées. C'est le problème de l'absence de solution, l'absence de gestion par les assemblées, parce que la situation peut se dupliquer dans les autres assemblées. Et effectivement, l'article 25 de la Constitution prévoit la possibilité d'être remplacé par son suppléant lorsqu'on intègre le gouvernement. Donc ça veut dire qu'il faut non seulement permettre la prise en charge de des députés qui se retrouvent dans cette situation-là, hommes et femmes, pour le congé maternel et paternel, mais aussi prévoir la possibilité que le député soit remplacé, le ou la députée soit remplacée. Et là, en l'occurrence, ça emporte d'autres enjeux, notamment des enjeux en matière de vote.
Oui, parce qu'elles pourraient déléguer leur vote à un ou à une collègue, comme on le fait quand on est malade. Enfin, on l'a dit, être enceinte, ça n'est pas être malade. Donc, elles ne peuvent pas déléguer, là.
Effectivement, il y a plein de solutions. Il y a le système du vote où on demande à un collègue d'aller voter pour soi-même. Donc, ça, ça reste une possibilité. C'est au Parlement, puisqu'il est souverain de décider des modalités et de procéder à l'aménagement et à la réforme de la réglementation, enfin du règlement de l'Assemblée nationale en l'occurrence.
Elles pourraient aussi voter à distance, elles peuvent suivre les débats de chez elles, c'est ce qu'elles font d'ailleurs quand elles vont accoucher, mais elles peuvent pas voter, pourquoi?
Parce qu'il faut être présent. Donc,
il faudrait changer le règlement.
Non, mais effectivement, quand on pose les questions aussi simplement que ça, ça paraît être une hérésie. On se dit que c'est plus du tout d'actualité et qu'il y a plein de solutions qui peuvent être mises en place. La question, c'est que va faire l'Assemblée nationale face à ça? Parce que là, l'Assemblée nationale, elle s'est féminisée, et plus que féminisée. Alors d'abord, elle s'est féminisée, et maintenant, il y a des postes stratégiques qui sont occupés par des femmes. L'Assemblée nationale, on le voit avec Yaël Braun-Pivet, on le voit avec Mathilde Panot, Marine Le Pen, qui est aussi un poste clé. Donc effectivement, cette situation-là, elle est amenée à se reproduire. Et en tout état de cause, procéder à la modification du règlement, ça passe à nouveau par une loi organique, mais c'est quelque chose qui doit être fait.
Oui, Aurore Berger, dont on parle, qui s'en va, donc elle est présidente des députés macronistes. Elle peut se faire remplacer en tant que présidente des députés macronistes par quelqu'un d'autre, mais elle ne peut pas se faire remplacer pour voter la semaine prochaine la loi qui lui tient à cœur. Là, elle ne peut pas voter. Là, c'est quand même incroyable qu'on n'y ait jamais pensé jusqu'à présent.
Ça n'a pas jamais été pensé. C'est pensé, ça a été vécu. Simplement, généralement, les femmes étaient priées de faire profil bas. On est certes avant tout députées, mais en l'occurrence, la femme n'est pas dans la même condition que l'homme. Et quand elle porte un enfant, elle est aussi contrainte de devoir assumer sa grossesse.
Mais Béatrice Guillemot, quand elle s'absente pour accoucher, est-ce que les femmes députées continuent d'être payées, étant donné que leur mandat n'est pas un emploi, et qu'elles touchent des indemnités, elles ne touchent pas un salaire, et que le congé maternité n'existe pas pour les députées, et qu'elles ne sont pas malades? J'imagine qu'elles ne touchent pas leurs indemnités.
Alors à ma connaissance, elles continuent à toucher leurs indemnités.
Ah, quand même.
Il faudrait vérifier, il faudrait demander ça simplement à l'Assemblée nationale, ça serait intéressant de le savoir. Il y a des sanctions disciplinaires qui sont prévues, on peut retirer une part de l'indemnité. Maintenant, sanction disciplinaire, c'est l'objet d'une faute. Est-ce qu'être enceinte, c'est une faute? Ça m'étonnerait.
Mais on dirait, franchement, puisque tout à coup, le siège reste vide, on n'a plus le droit de voter, on n'est plus là, c'est comme si on n'était plus député, c'est comme si on était puni, quoi. Comme si on avait commis une faute au règlement.
Mais en tout cas, c'est ce que disent les principales protagonistes, elles le vivent comme ça. Par principe, les institutions ceux qui les habitent, qui les occupent et qui les font vivre, évoluent. Donc, il y a des questions qui ne se posaient pas ou qui n'avaient pas le droit d'être posées il y a quelques années et qui se posent désormais, qui arrivent dans le débat public. Maintenant, la question est de savoir, c'est si finalement les décideurs, ceux qui ont la possibilité de faire évoluer les règles qui permettent la vie des assemblées, souhaitent se mobiliser et accueillir ces questions-là apporter des solutions. Peut-être qu'en 2022, dans certains pays, on revient sur le droit à l'avortement. Peut-être que la France peut faire honneur en ce domaine-là et se montrer progressiste, permettre aux femmes de pouvoir assumer, aux femmes tenues par un mandat électif public, de pouvoir avoir une vie de femme, parce que effectivement, certaines femmes font le choix d'enfanter sans pour autant être mises de côté et voir leur carrière politique complètement lestée ou empêcher le fonctionnement de leur groupe politique. Ça paraît être quelque chose qui n'est pas fondamentalement impossible. Permettre aux assemblées aussi d'évoluer, ça reste quelque chose qui paraît aussi fondamentalement faisable. Maintenant, reste au pouvoir public à se saisir de ce sujet.
Merci Béatrice Guimond. Je rappelle que vous êtes membre associé au laboratoire Le Cercle à l'Université de Bordeaux et chercheuse à l'Observatoire de l'éthique publique. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Brigitte Giraud qui vient de recevoir le prix Goncourt.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.